Radio Okapi. Le journal, présenté par Pascal Massirica.
Les titres de l'actualité, amélioration des opportunités d'investissement en RDC sur la base de la performance macroéconomique et la gestion des finances. C'est ce qu'indique le rapport de l'Agence panafricaine des corporations et d'investissement dont les conclusions portent sur les atouts, les opportunités et les axes d'amélioration. Célébration aujourd'hui du Tabaski, la fête du mouton chez les musulmans. Nous serons à ce sujet à Kindu au Maniema où la communauté musulmane s'est déployée sur différents sites pour marquer l'événement. Notre invité, c'est le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, affirme que le sommet quadripartite tenu hier à Luanda, en Angola, a permis de mieux coordonner les initiatives afin de restaurer la paix dans l'est de la RDC. Madame, messieurs, bonsoir. Ouvrons par une page économique. La République démocratique du Congo a connu un progrès sur ses opportunités d'attirer les investisseurs. Sa note est passée de 5.5 sur 10 l'année dernière à 5.5 tirée par la performance macroéconomique et la gestion des finances publiques. C'est ce qui ressort en tout cas de la présentation du rapport risque élaboré par l'agence panafricaine Bluefit Investment Corporation ce mercredi ici à Kinshasa. C'était au cours d'une conférence tenue par le ministère des Finances. Cette structure établit la cartographie des risques, les atouts nécessaires, les opportunités et les axes d'amélioration. Le premier ministre a parlé à l'occasion de comment améliorer l'environnement socio-économique. Les propos de Jean-Michel Samaloukonde-Kenge ont été recueillis par Grâce Amzati.
Je voudrais ici, après cette évaluation qui nous a été donnée et cette notation, heureusement en progressivité, mentionner que l'effort du gouvernement pour améliorer non seulement notre climat des affaires, mais surtout notre potentiel d'investissement va dans le sens de répondre à une question sociale du plus haut niveau, de la création des emplois et de la création des richesses. Ça passe par la diversification de notre économie. Mais nous reconnaissons que au-delà des efforts que nous faisons, la véritable réponse va nous venir du secteur privé avec les investissements que nous attendons. Et nous sommes conscients de la diversification de l'économie qui doit intervenir dans notre pays. Cela passe d'abord par l'amélioration de nos infrastructures. Mais au cœur, d'abord l'amélioration de notre système au niveau des infrastructures routières, parce que ça passe par là, pour qu'on puisse avoir le développement que nous voulons avoir. Mais à côté de cela, et je crois que ça c'est le plus important, c'est surtout le secteur de l'énergie. Et je vais rappeler que ce qui est attendu par nos populations, c'est plus d'emplois, surtout pour nos jeunes. Et pour que nous puissions y arriver, nous avons justement besoin de cet investissement dont nous parlons aujourd'hui.
Inauguration hier mardi au centre des négoces de Mouchacha dans la province du Lualaba d'un laboratoire ultramoderne de centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses. Des précisions avec le directeur général du dit centre. Les propos de Freddy Mwamba ont été recueillis par Jean Ganduka Bongo.
Nous sommes en train d'implémenter des laboratoires pour le centre d'expertise pour répondre aux besoins de miniers. Quels sont les besoins de miniers? Ils veulent connaître le monitoring de leurs process. Ça, nous avons des équipements pour ça. Ils veulent connaître la nature de leurs produits. Nous avons des équipements pour ça. Ils veulent connaître la nature de l'environnement qu'ils sont en train d'exploiter. Nous avons des équipements pour ça. Bref, nous mettons en place un complexe d'équipements qui respecte l'écologie. Nous avons aussi du matériel pour aider l'exploitant qu'il en a aujourd'hui de pouvoir vendre son minerai en connaissant la nature et les caractéristiques physico-chimiques de ces minerais et aussi connaître le vrai poids. Parce que pour votre information, quand les artisanaux vendent leurs produits, ce sont les acheteurs qui déterminent la valeur du minerai, le poids et aussi la nature de ces minerais-là. Et ça, c'est vraiment de l'escroquerie. C'est ce qui ne permet pas aux artisanaux congolais de pouvoir bénéficier de la vraie valeur et du vrai prix.
Et puis c'était hier mardi, la journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises. Cette journée avait été instituée pour sensibiliser l'opinion sur leur importance dans la concrétisation des objectifs du développement durable. À Lubumbashi particulièrement, les femmes entrepreneurs affirment qu'elles sont confrontées ces jours-ci à de nombreux défis, comme l'indique Madame Aimée Manyang au micro de Jean-Gandou Kabongo.
Les femmes entreprennent par le concours des circonstances ou par un besoin quelconque, mais il faudrait aussi qu'elles se forment dans le domaine dans lequel elles entreprennent et avoir des compétences spécifiques pour mieux évoluer. Deuxième défi, c'est l'accès à l'information. Les femmes doivent chercher l'information. Elles doivent se documenter. Elles doivent chercher à acquérir de nouvelles connaissances à travers la recherche de l'information. Troisièmement, il y a des stéréotypes sociaux qui limitent l'accès des femmes aux opportunités économiques. Et quatrièmement, nous pouvons parler aussi des harcèlements dans les milieux entrepreneuriaux, les inégalités, des violences basées sur le genre, ce qui ne permet pas à la femme de pouvoir accéder à des opportunités au même titre que l'homme. Les femmes n'ont pas accès de moyens pour payer la garantie afin d'accéder au crédit pour leur permettre de financer le développement de leur entreprise. Et ça, c'est très difficile parce qu'elles n'ont pas eu la possibilité d'accumuler des capitaux qui pourraient leur permettre de développer des gages, des garanties à fournir aux banques.
On enchaîne avec l'Ituri où le trafic est dense ces jours-ci sur le pont Chari qui relie les chefferies de Bahema, Dirumu, Baboa, Bokoe et la ville de Bunia. Réhabilité l'année dernière par le contingent népalais des casques bleus de la MONUSCO, il facilite le rapprochement entre les communautés locales qui ne se fréquentaient plus à cause des conflits armés. Le projet a également boosté l'économie de la localité. Un reportage de Marine Magira.
Il y a encore un an, le pont Chari était dans un état de délabrement très avancé. Sa fragilité inquiétait les populations et les usagers. Répondant à une requête des chefs locaux, les casques bleus népalais de la MONUSCO ont réhabilité l'année dernière ces ponts, capital pour la mobilité des populations et l'écoulement de leurs produits agricoles et d'élevage. Les habitants rencontrés sur place se réjouissent de la réfection de l'ouvrage sur lequel le défaut de maintenance commence à peser.
Depuis qu'on a construit cet ouvrage, ça nous aide beaucoup pour la traversée. Mais nous voyons que le pont commence à être en mauvais état. Nous aimerions qu'on puisse le réhabiliter en fer cette fois-ci. Ça nous aide beaucoup pour nos activités de commerce, pour nos travaux champêtres et autres.
La société civile de la chefferie de Bahema Dirumu souhaite que ce pont soit construit en matériaux plus durables avant qu'il ne s'effondre à nouveau. Isaac Nyakulinda, son président.
C'est le seul pont qui permet à ce que la population qu'elle travaille et qu'elle trouve de quoi manger et nourrir leur famille. Nous demandons encore de pouvoir nous aider à réhabiliter ces ponts une fois de plus. Nous, on a voulu qu'on les fasse cette fois-ci en fer, donc d'une manière durable.
En saison de pluie, la traversée sur le pont Chari est parfois difficile et risquée, car il est envahi par les eaux qui débordent sur toute la structure.
L'actualité sur Radio Kapi, c'est aussi la célébration ce mercredi du Tabaski, la fête du mouton chez les musulmans. Au Maniema, la communauté musulmane s'est déployée aujourd'hui dans différents sites pour marquer l'événement. C'est ce que nous explique Akindu Florence Kizalunga.
Maniema, berceau de l'islam, la fête des Tabaski a été célébrée avec joie à Kindu, dans les trois communes et à la mosquée centrale de Kindu. Partout où ils se sont réunis pour adorer, les musulmans ont été invités à l'occasion de cette fête au respect de leur engagement, au pardon et à l'amour du prochain. Maître Amouran Yuma, imam chef d'entité islamique du Maniema, donne ses messages.
Le message clé que je lance en tant que responsable et représentant provincial de la communauté islamique, c'est un message du respect de la parole donnée. Parce que Nabi Ibrahim avait promis à Dieu que si j'aurais un enfant, je vais l'égorger pour montrer le degré de ma foi. Et nous, en tant que musulmans, chaque fois que nous promettons, nous devons respecter les engagements, nous devons réaliser la promesse. Et nous devons être modèles, être soudés, des véritables croyants qui ont la crainte d'Allah. C'est une fête de partage avec les voisins, même ceux qui ne sont pas des musulmans. Nous devons aller très loin, même ceux qui sont chrétiens, nous devons partager avec eux parce que c'est une fête où nous avons l'obligation de partager avec les autres.
Après les moments d'adoration, les musulmans ont visité certaines familles de Mini où ils ont eu à partager un verre car la fête des Tabaski, c'est aussi un moment de partage. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Non loin de là, au nord Kivu, des milliers de musulmans de la ville de Beni étaient réunis ce mercredi matin au stade municipal du 15 octobre. À cette occasion, le représentant régional du culte a invité les musulmans à prêcher l'amour du prochain et à lutter contre les antivaleurs qui nuisent à la paix. À Beni, Marc Marofimbo.
Dans son message devant un millier de fidèles au stade du 15 octobre à Beni, le représentant régional du culte musulman dans la région de Beni a d'abord décrit la situation sécuritaire qualifiée de chaotique pour la population de Beni. Pour Sahadi Ngonda Hassani, en ce jour de la fête, les musulmans doivent changer de comportement et vivre dans l'humilité. Il les a invités à pratiquer l'amour du prochain et à combattre les antivaleurs au sein de la communauté, car pour lui, l'islam est une religion de tolérance. Sahadi Ngonda Hassani.
Nous demandons aux musulmans l'union, l'amour et la fidélité. Donc, actuellement, les musulmans contribuent pour éviter, soi-disant, les événements qui se passent, pour prêcher beaucoup et annihiler tous les caractères qui ne sont pas islamiques.
Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Et puis, Madame Isabelle Okunabo, épouse d'un militaire de la base de Biroué dans le territoire de Walikale, toujours au nord Kivu, dénonce les tortures qu'elle a subies lundi dernier de la part d'un officier à une quarantaine de kilomètres de Walikale centre. Cette dame affirme avoir été fouettée par des militaires sur instruction de cet officier avant d'être déguerpie de la base. L'officier lui reprochait d'avoir réclamé la solde de son mari qui aurait été détournée. On l'écoute.
Je reste avec mon mari militaire Kaninda Mutamba à la base militaire de Walikale. Pour réclamer les droits de mon mari, sa prime de 33 000 francs, le commandant base Doudou Kaboué Pascal a donné l'ordre à deux militaires de me déshabiller puis me fouetter. Après cela, il a intimé l'ordre de me déguerpir de ma maison. Ils m'ont chassé jusqu'en dehors de la barrière. Je suis sans abri et mon mari, je lui ai laissé dans les cachots de Biroué pour avoir réclamé sa prime de combat de 33 000 francs congolais. Il s'est soulevé. Doudou Kaboué Pascal, qui a détourné cet argent depuis le mois de février dernier, justifie cela du fait que mon mari a été arrêté et pourtant Kaninda a été libéré et rentré dans son unité à Biroué. La prime arrive et il continue de la bouffer alors que les militaires sont sur place, il n'est plus en prison.
Restons au nord Kivu où un citoyen français écope de 5 ans de servitude pénale et une amende de 480 000 dollars américains pour commerce illicite de substances minérales congolaises. La peine a été prononcée hier mardi après-midi par le tribunal de commerce de Goma. C'était à l'issue d'une procédure de flagrance. Résident en Suisse, Stéphane Guianissini a été appréhendé dimanche dernier à l'aéroport de Goma avec deux faux lingots d'or. C'est ce que nous explique à Goma Bernard Denyangui.
C'est après deux jours de procès que le président du tribunal de commerce, Sombala Daniel, a prononcé cette sentence, précisant que Guianissini est jugé pour quatre faits infractionnels. C'est notamment l'achat et détention illicite de substances minérales, fraude douanière et blanchiment de capitaux. Le condamné a tout simplement exprimé sa déception et promet de faire appel avant les 72 heures. Rappelons que les services de sécurité ont arrêté dimanche dernier M. Guianissini à l'aéroport international de Goma avec deux lingots d'or. Après analyse au laboratoire, les résultats ont prouvé que ce n'était pas de l'or mais plutôt un mélange de cuivre et de zinc. Saisi de l'affaire, Emmanuel Makanda, avocat général au parquet général de Goma, a préféré ouvrir le dossier au tribunal de commerce où ce sujet français a été présenté devant un juge pour instruction flagrance. La défense de l'accusé a précisé que son client a été frappé par un groupe avec qui il avait une convention d'achat de 15 kilos d'or, dont le premier paiement a été de 80 000 dollars américains. Goma. Bernard Nyangi, Radio Kapi.
L'actualité, c'est aussi la poursuite ici à Kinshasa du procès du député Edouard Mangachuchu devant la haute cour militaire à la prison d'Endolo. Hier, mardi, la cour a procédé à la projection des vidéos. Elle a également examiné le contenu des cartes USB qui ont été découvertes par les services de renseignement dans la résidence de Mangachuchu lors de la perquisition. Parmi les fichiers qui ont été retrouvés, il y a un document intitulé « Commandement des États-Unis pour l'Afrique Africom, dont les contenus n'ont rien révélé de grave à ce stade d'analyse. Le compte rendu avec vous, Jeff Ngoy.
Le juge cherche à établir le lien entre l'infraction d'espionnage et le contenu des cartes USB. Celle-ci renseigne notamment sur le fonctionnement de la SMB et le rapport avec Africom. Reconnaissez-vous le contenu des flash disques, demande la cour au prévenu. Celui-ci répond qu'il ne les reconnaît pas. C'est incroyable, ces flash disques ne se sont pas retrouvés chez moi. On va m'adresser ces documents à quelle qualité? Je ne les connais pas, réagit-il. Selon ses conseils, ces documents attribués à Africom ne peuvent pas bénéficier de la moindre présomption d'authenticité parce qu'il ne porte pas une signature. Il ne s'agit pas de correspondance d'Africom adressée à notre client. Qu'est-ce qu'il démontre par rapport aux infractions mises à sa charge? Nous ne voyons pas de rapport, déclare Maître Thomas Gamakolo. En revanche, le ministère public rassure que tous les flash disques soumis au débat ont été trouvés dans la résidence du député national Mwanga Chuchu lors de la perquisition et qu'ils sont authentiques. La cour suspend ici le débat et renvoie la cause à la semaine prochaine.
Actualité internationale.
Trois semaines après un voyage effectué à Kiev, l'émissaire du pape François est cette fois-ci en Russie. Le cardinal italien Matteo Zuppi est arrivé à Moscou ce mercredi matin pour y rencontrer des officiels russes. Une mission délicate pour les Saint-Sièges et les souverains pontifes qui croient toujours à la possibilité d'établir une paix durable. Des nouvelles sanctions américaines contre des entités et des individus en Afrique subsaharienne. Il s'agit notamment de lutter contre des transactions illégales sur l'or en République centrafricaine au profit d'un groupe Wagner. Et puis, qui savait, en Russie, la préparation du groupe Wagner de mener une rébellion contre le ministère de la Défense à Moscou, selon le New York Times, qui cite aujourd'hui des représentants américains informés sur la question par les services de renseignement américains. Plusieurs généraux de l'armée russe non seulement savaient, mais auraient aussi contribué à cette attaque. Les commandants adjoints des opérations de l'armée russe en Ukraine seraient de ce qui était au courant. La Russie a démenti.
L'invité.
Notre invité, c'est le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Christophe Lutundula-Apala a affirmé que le sommet quadripartite tenu hier mardi à Luanda, en Angola, a permis d'harmoniser et de mieux coordonner les opérations et les initiatives afin de restaurer la paix dans l'est de la RDC. Il est interrogé par Kéline Kouté, notre envoyé spécial à Luanda.
Ce sommet, monsieur le VEPAM, peut-on dire que c'est un pas vers la solution à la crise sécuritaire dans la partie est de la RDC?
Bon, tout fait non. Il faut quand même rappeler et souligner, comme l'a dit ce matin le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les plans de paix existent. Je vous ai dit ici, il y a un plan de paix qui existe. Et ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que jusque-là, le Rwanda et son supplétif, le mouvement terroriste, l'M23, ne veulent pas du tout exécuter ces plans de paix, ne veulent pas du tout exécuter les recommandations des Nations Unies, des organisations de l'Union africaine et des communautés régionales à l'égard desquelles ils n'ont que du mépris. Et donc, il faut réunir tous les moyens militaires, diplomatiques et politiques pour arriver à ce qu'ils s'impliquent, ils exécutent. C'est ça la question. Le président l'a dit ici, il n'y a pas d'autre plan à inventer. Et sur ce point-là, on peut dire que si l'action militaire n'a pas été ordonnée ici, à tout le moins, le dispositif politico-diplomatique s'est renforcé.
Alors, en parlant du M23, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a déclaré que si les choses ne marchent pas aujourd'hui, c'est parce que la RDC ne veut pas négocier avec le M23. Votre réaction?
Les choses ne marchent pas aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord avec lui. C'est parce que le M23 et le Rwanda ne veulent pas cesser l'hostilité. Le Rwanda continue à maintenir la présence de ses militaires au Congo, à soutenir l'M23. On nous a conviés à un simulacre de cessation des hostilités et de retrait, alors que comme tout le monde le sait, le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies établit clairement, preuve à l'appui, que l'armée rwandaise et les M23 continuent à s'armer, continuent à recruter et continuent à conquérir les espaces territoriaux pour arrondir, leur rayon d'action et se doter d'un pouvoir de négociation. Vous voyez? Donc il n'y a pas une évolution satisfaisante. On ne peut pas dire n'importe quoi à la population. Ce qui est vrai, c'est qu'on se bat sur le plan diplomatique, on avance, et même sur le plan militaire, les Congolais n'ont pas raison de penser que nous sommes assis les bras croisés.
Il n'y aura toujours pas de négociations avec le M23. Le gouvernement est catégorique. Écoutez, sur ça.
Après que le président de la commission a fait sa déclaration, nous avons eu à recadrer les choses et nous disons le dialogue, les discussions avec le M23, avec le Rwanda, n'est possible que si on crée les conditions. Lesquelles? Je répète encore, la cessation des hostilités, le retrait des territoires occupés, le cantonnement, le retour de nos compatriotes réfugiés intérieurs à leur domicile, la restauration de l'autorité de l'État congolais dans les territoires que les M23 continuent à occuper, et évidemment l'engagement de cet espace territorial congolais dans le processus électoral. Si ces conditions sont réunies et que l'M23 entre, comme tous les groupes armés, dans le processus des armements de mobilisation, il est clair que dans le cadre de ce processus, ils sont concernés par les consultations politiques que le président a amorcées à Nairobi sous la médiation de l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta. Et vous savez qu'on avait déjà conclu des accords avec à peu près une trentaine de groupes armés et de chefs coutumiers. Il ne reste qu'à mettre en application. Voilà, donc, contrairement à ce que Moussa Faki dit, c'est une erreur, c'est même une faute d'analyse et d'appréciation que de l'entendre affirmer ça comme s'il apportait de l'eau au moulin d'un 23.
Tant que l'armée congolaise et la police congolaise ne sera pas capable de protéger la population, les forces de l'EAC ne quitteront pas le territoire congolais. Propos du président kényan, William Ruto.
Ce sont ses propos. Et qui lui dit que l'armée congolaise, la police congolaise ne sera jamais capable de s'assumer totalement? Non, c'est pas ça. Deuxièmement, on ne peut pas se permettre de dire ça alors que l'EAC est là à notre invitation. À notre invitation. Non, totalement à côté de la plaque. Il sera surpris.
Merci, monsieur le ministre.
C'était l'invité de Radio Okapi, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Pala, interviewé hier à Luanda par notre envoyé spécial, Kelly Nkoute. C'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté.